je commence maintenant.
Allez-y. Tu peux commencer.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
Excellent. Aujourd'hui, dans l'écho des gnous, nous recevons celui sans lequel nous ne serions pas ici à vous parler de logiciels libres une semaine sur deux. Je veux parler de Richard Stallman, créateur du projet GNU. Bonjour Richard.
Bonjour.
Pour interviewer Richard, nous sommes avec Tim.
Bonjour.
Aurore.
Bonjour.
Qui est en train de parler, Alexandre.
Bonjour à tous. De toute façon, vous avez entendu les actualités avant. Donc, dans un premier temps, Richard, alors on l'a souvent expliqué dans l'écho des gnous, c'est quand même notre mission, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ?
Le logiciel libre veut dire le logiciel qui respecte la liberté de l'utilisateur et la solidarité sociale de sa communauté. Donc, je peux l'expliquer en trois mots : liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire toutes les choses que Sarkozy déteste.
Très bien.
Donc voilà, c'est les quatre. Alors les quatre. Est-ce que tu peux nous rappeler les quatre libertés du logiciel libre ?
Un programme est libre si tu, l'utilisateur, possèdes les quatre libertés essentielles. La liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il fasse ton informatique comme tu veux. La liberté numéro deux est la liberté de diffuser des copies exactes du programme aux autres quand tu veux, c'est-à-dire la liberté d'aider les autres. Et la liberté numéro 3 est la liberté de contribuer à ta communauté, c'est-à-dire la liberté de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec ces quatre libertés, le système social de l'utilisation et de la distribution du programme est un système éthique. Et pour ça, nous l'appelons le logiciel libre. Mais si une de ces libertés essentielles manque, le programme est privateur parce qu'il prive ses utilisateurs de leur liberté. Il leur impose un système social pas éthique.
Donc on a vu qu'en réaction à la montée dans les années 80 du logiciel propriétaire, tu as fondé un projet, le projet GNU. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi d'abord tu l'as fait ? D'où t'est venue l'idée de devoir créer un projet pour protéger les logiciels libres ?
D'abord, je voulais rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté. Mais pour avoir la liberté en utilisant un ordinateur, il faut que tout le logiciel dans l'ordinateur soit libre, parce que n'importe quel programme privateur prive ses utilisateurs de leur liberté. Donc, qu'est-ce que je devais faire pour rendre possible l'utilisation d'un ordinateur sans logiciel privateur? Il fallait d'abord un système d'exploitation libre. Donc, j'avais le devoir d'en écrire un. Donc, j'ai lancé le projet d'écrire un système d'exploitation libre compatible avec Unix. Et je lui ai donné le nom GNU comme blague.
Il n'y a pas d'autre sens. GNU qui signifie
GNU n'est pas Unix.
En anglais, GNU is not Unix.
Donc c'est un acronyme récursif.
Donc le projet GNU qui s'articule avec le noyau Linux pour donner un système d'exploitation complet. Parce qu'il existe un noyau GNU, le noyau Erd, mais ce noyau...
Oui, mais il ne marche pas bien.
Il ne marche pas.
Il marche, mais pas bien. Il a des problèmes. Il paraît que la conception de base que j'ai choisie implique des problèmes inconnus à l'époque. parce que ce sont des conséquences de la puissance des fonctionnalités de cette conception. Et à l'époque, je pensais qu'avec cette conception, nous pourrions avoir un système plus puissant et élégant, et comme ça, nous aurons des avantages pratiques en même temps qu'éthiques. Mais enfin, la puissance même de cette conception implique des problèmes et personne n'a vu comment les résoudre. C'est dommage, mais ce n'était pas un désastre parce que avec la libération du noyau Linux en 92, nous avons reçu un autre noyau à utiliser avec le système GNU.
Donc le noyau Linux qui n'est pas un projet GNU, mais qui est libre, qui est fait par Linux Torvalds, qui est quelqu'un qui n'a pas le même souci de liberté que nous avons.
Le noyau Linux était libre, mais aujourd'hui, il n'est plus libre. La majorité, oui, mais il y a des morceaux privateurs dans les supposés fichiers de code source de Linux. Il y a des morceaux privateurs qui ne sont pas vraiment de code source. On trouve dans un fichier dit de code source une grande liste de numéros, jusqu'à 300 000 numéros dans une liste. Et cette liste, et chacune de ces listes, est en vérité un programme privateur.
Alors, pour protéger la liberté des logiciels libres, tu as créé un instrument juridique qui s'appelle la licence GPL.
Oui, la licence publique générale de GNU. L'idée de cette licence est d'utiliser la loi du droit d'auteur pour exiger légalement que toutes les copies de ce programme et de toutes les versions de ce programme s'y distribuent comme du logiciel libre, c'est-à-dire interdire et interdit. Et cette technique légale s'appelle le gauche d'auteur.
Le copyleft.
En anglais, copyleft. En français, gauche d'auteur.
C'est un petit peu, en France, on a un slogan, je ne sais pas si tu connais mai 68, c'était une grande révolte d'étudiants. C'est un peu, il est interdit d'interdire.
Oui, et donc c'est la même idée dans le gauche d'auteur.
Alors, tu parlais de système social. Je vais prendre une question d'Aurore. Je la pose et je laisse Aurore te relancer ensuite. Est-ce que tu considères que le logiciel libre a un sens politique ?
En fait, on présente souvent le logiciel libre. Je ne connais pas depuis très longtemps, mais avec les quatre libertés, avec le système des licences. J'ai l'impression qu'on a presque tendance à l'associer à un mouvement politique, à une idéologie qui est beaucoup plus large et beaucoup plus forte que les licences uniquement.
Le logiciel libre est une question politique. La liberté ou... j'ai oublié un mot. La soumission aux entreprises développeurs, donc c'est une question politique. Et c'est pour ça que la question est importante. Il ne s'agit pas que de développer des meilleurs programmes. Ce n'est pas une question du progrès technique, parce que le progrès technique ne vaut rien sans respecter la liberté. Je n'accepte pas un programme commode au prix de ma liberté. Je le rejette, je ne l'utilise pas.
Donc tu fais partie de ceux qui préfèrent perdre des fonctionnalités
plutôt bien que sûr. Que des fonctionnalités. Je peux vivre sans une fonctionnalité. Surtout étant vu qu'il y a quelques ans, cette fonctionnalité n'existait pas encore, donc tout le monde savait vivre sans elle. Ce n'est pas vraiment difficile. Il faut valoir la liberté.
Alors, puisqu'on est sur les considérations politiques, moi, une question qui me taraude un petit peu, c'est quel sens a l'utilisation de logiciels libres dans un pays dans lequel les libertés publiques en général ne sont pas respectées? Prendre un exemple, le gouvernement chinois va développer sa propre distribution Linux. Mais est-ce que ça
Mais
va
ce
être
n'est pas une distribution
GNU
Linux.
Linux, excuse-moi?
Prière de ne pas faire cette erreur parce que c'est injuste envers
Le projet
nous.
GNU, effectivement. C'est une immonde erreur de ma part. Mais est-ce
Oui.
que tu penses que le fait que le gouvernement chinois va développer une distribution GNU Linux va permettre aux Chinois de gagner en liberté?
En comparaison à Windows et à Macintosh et à tous les produits d'Apple, oui, bien sûr. Mais peut-être cette version du système GNU et Linux ne sera pas complètement libre. Il est possible que l'État chinois mette quelque chose dans le système, quelque chose de privateur pour leur ôter la liberté aux citoyens. Parce que c'est l'habitude de l'État chinois, mais pas seulement de l'État chinois, de l'État français aussi. La grande faiblesse de notre communauté est que presque toutes les distributions GNU et Linux contiennent des programmes privateurs. C'est l'habitude, parce que dans notre communauté, nous avons réussi beaucoup plus à diffuser l'utilisation du logiciel qu'à enseigner la valeur de la liberté. Donc, la plupart des utilisateurs acceptent les programmes privateurs dans le système, même les morceaux privateurs dans Linux, qui est appelé souvent libre, mais ne l'est pas actuellement. Et donc, si l'État chinois le fait, il ne serait pas pire que les entreprises qui actuellement distribuent le système.
Et tu parles d'utilisation de logiciels privateurs sur une distribution GNU Linux, mais est-ce que tu
Pas
penses...
sûr, pas forcément sûr. Les distributions même contiennent des programmes privateurs
Est-ce
ou
que tu penses pas que c'est
suggèrent
un...
les programmes privateurs.
Est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même un progrès que les gens vont au moins vers quelque chose qui...
Peut-être, mais il serait un progrès si les gens avaient envie d'arriver un jour au but. Mais en vérité, les utilisateurs de ces systèmes partiellement privateurs ont oublié complètement le but de la liberté, ou ils n'ont jamais appris ce but. Et comme ça, comment avoir plus de progrès?
Justement, à ce sujet, j'avais une question. Est-ce que les personnes qui ne sont pas développeurs et qui sont utilisateurs de logiciels libres, est-ce qu'ils sont vraiment libres? Parce qu'au final, même s'ils ont accès au code, s'ils ne savent pas le lire, ils n'ont pas
Ce
la
n'est pas
capacité de le modifier.
une question de liberté. Il faut ne pas confondre la vraie question de liberté avec toutes les autres questions de la vie. Ne pas savoir écrire du code, oui, gêne plusieurs activités, mais ce n'est pas la même chose qu'être interdit de changer un programme. Et les utilisateurs d'un programme libre forment une communauté. Et dans cette communauté, il y a des utilisateurs qui savent programmer. Donc, s'il y a une fonctionnalité malveillante dans ce programme, les utilisateurs qui savent programmer seront capables de le voir un jour en lisant le code et de faire une version modifiée sans cette fonctionnalité malveillante. Et quand ils le font, ils le feront pour tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs qui ne savent pas programmer. Mais avec le logiciel privateur, c'est impossible. Aucun utilisateur n'est capable de corriger un problème délibéré.
Pour en revenir un peu à la politique, pensez-vous que c'est au rôle du gouvernement de subventionner une distribution Linux, comme on a pu voir en
Ce n'est pas
Chine?
une
Nous,
distribution
Linux.
Linux. Prière
Excusez-moi.
de ne pas attribuer notre travail à M. Torvalds.
Bien sûr.
Il a fait son travail, mais nous avons commencé le système.
Voilà. Pensez-vous que, qu'un gouvernement devrait subventionner les distributions GNU Linux, comme par exemple...
Pas forcément, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que les États doivent faire, comme par exemple migrer complètement les écoles au logiciel libre, éliminer la pratique d'enseigner les programmes privateurs. Éliminer aussi la pratique de distribuer des programmes privateurs chez les serveurs de l'État aux citoyens.
Dans les administrations, comme ça.
Bien sûr.
Où pensez-vous qu'en est la France au niveau de l'utilisation du logiciel libre?
Je ne peux pas juger, je suis étranger. Et les Français sauront plus que moi à ce sujet. Mais ce que j'ai appris, c'est que les administrations publiques ont beaucoup adopté le logiciel libre, mais pas complètement. Et il n'y a pas de politique explicite de migration complète.
C'est vrai que c'est le choix d'administration de manière isolée, c'est pas un choix du gouvernement, ça c'est sûr. Il y a un truc une technique à la mode au niveau informatique qui s'appelle le cloud computing. Beaucoup de personnes ne comprennent pas en quoi c'est menaçant pour les libertés de l'utilisateur.
Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que cette expression est nébuleuse et pour ça, elle ne peut pas être utilisée dire des choses utiles. Pour dire des choses claires, il faut ne pas mettre un nuage dans la phrase. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'utiliser le réseau. Et qui posent des questions différentes. Et donc, cette expression « cloud computing » confond toutes. Et comme ça, on ne peut pas comprendre ni l'une ni l'autre. Donc, je n'utilise pas cette expression.
Mais, par exemple, une personne qui utilise des services en ligne, par exemple,
mais pour
de
faire
messagerie.
Quoi?
Par exemple, on prend l'exemple, je ne sais pas, d'une messagerie. Le logiciel de messagerie est libre, mais il n'est pas sur son ordinateur.
Maintenant, c'est quelque chose de concret. Maintenant, je comprends de quoi il s'agit et je peux penser à ce sujet.
D'accord.
Mais cloud computing, c'est trop vague. C'est complètement général. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais messagerie, c'est une chose spécifique. Il faut toujours identifier les utilisations spécifiques du réseau parce que chaque utilisation pose d'autres questions. En ce cas, je ne vois pas de problème. Parce que la messagerie, c'est la communication. On ne peut pas le faire dans ton propre ordinateur. Parce que c'est la communication avec quelqu'un d'autre qui utilise autre ordinateur. Donc, il faut utiliser le réseau pour ça. Et s'il y a un serveur, oui, il y a des choses que théoriquement le serveur pourrait faire mal. Mais s'il le faisait mal, les utilisateurs le sauront. Donc, pas vraiment beaucoup de danger.
Ou si on reprend un autre exemple, celui alors, de l'équivalent libre de Facebook, j'ai oublié le nom.
Facebook fait la communication.
Diaspora.
Mais c'est une confusion complète. Complète. Parce que le problème de Facebook n'est pas que les programmes dans le serveur de Facebook ne soient pas libres. Je ne sais pas s'ils sont libres. Je sais que beaucoup sont libres. Peut-être tous sont libres. Parce que Facebook utilise beaucoup de code qu'il a écrit pour soi. Et Facebook possède tous les droits sur ses programmes. Donc, il possède les quatre libertés sur ses programmes. Donc, il n'y a qu'un utilisateur, donc tous les utilisateurs possèdent les quatre libertés, c'est un programme libre. Mais, dans un cas trivial, bien sûr, c'est un programme privé, pas publié, pas distribué. Bon, ce n'est pas le problème. Le problème de Facebook est dans le comportement de Facebook.
Sur les conditions utilisateurs qu'on doit signer.
Bien sûr, et dans les choses que Facebook fait avec les données de l'utilisateur. Donc, c'est une autre question. Et c'est une question importante. Il faut ne pas utiliser Facebook, mais pas à cause de quelques programmes théoriques privateurs qui courent dans les serveurs de Facebook. En ce cas, la victime, Facebook est la victime. Et je condole Facebook pour être la victime d'un programme privateur. J'espère qu'il puisse migrer un jour à un remplacement libre, mais c'est une autre question. Je ne propose pas de boycotter toutes les entreprises qui utilisent un programme privateur. Il n'y a pas besoin. Mais la raison pour ne pas utiliser Facebook est dans la conduite de Facebook envers ses utilisateurs.
Alors, d'ailleurs, vous avez 12 000, tu as 12 000 fans sur Facebook.
Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Moi, je n'en ai aucun parce que je n'ai pas de page. Je n'ai pas de page en Facebook. Je n'ai jamais utilisé ce site.
C'est un des problèmes aussi, c'est que certainement quelqu'un a créé une page pour vous et que les gens, après, se disent fans de vous alors que c'est un peu à l'opposé de vos
Je ne sais pas que faire, mais de toute manière, ce n'est pas ma page. Je n'ai jamais entré dans le site Facebook. D'accord. Des fois, j'ai utilisé wget pour recevoir une copie d'une page de quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas ce que Facebook dit sur moi.
D'accord. Pensez-vous qu'il vaut mieux utiliser des données libres sur des logiciels privateurs ou des données non libres sur des logiciels libres?
Je n'ai pas compris la phrase.
Vaut-il mieux, par exemple, des données fermées?
Je ne comprends pas données fermées, ce n'est pas clair.
Par exemple, pour un logiciel de cartographie, on va avoir des sources de la base de données des cartes qui va être privée. Donc, ce sont des données...
Sous copyright, en fait.
Sous copyright.
Ah, mais ce sont deux choses différentes. C'est beaucoup de confusion.
Oui.
Presque tous les programmes libres portent des droits d'auteur.
Oui.
Donc, dire « sous le droit d'auteur » n'est pas la même chose que dire « privateur ». Ce sont deux questions avec une relation, bien sûr, mais pas identiques. Il faut ne pas les identifier pour penser clairement. Mais donc, les deux choix sont quoi, concrètement?
Donc, ce serait utiliser des données sous copyright.
Je ne suis pas contre utiliser des données sous copyright.
D'accord.
Je ne le dis, je ne suis pas à l'encontre de ça. Je n'ai jamais dit.
Alors qu'utiliser des données libres, comme par exemple la base de données Wikipédia, sur un logiciel privateur.
Il faut donc, en ce cas, le problème est la perte de liberté et dans utiliser un programme privateur.
D'accord.
Donc c'est un faux choix. Est-ce que je voudrais plutôt avoir du cancer ou une crise cardiaque? Ni l'un ni l'autre, s'il te plaît.
En France, on a une expression qui est « on ne choisit pas entre la peste et le choléra ». C'est un petit peu un équivalent. Alors, on parle beaucoup de logiciels libres depuis tout à l'heure, mais à HTinux, on a un projet mené par un salarié de l'association qui est de faire du matériel libre. Est-ce que pour toi, la notion de matériel libre a un sens?
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Du matériel. Hardware, free hardware.
Aujourd'hui, c'est pour la plupart absurde parce que nous n'avons pas de copieuse aux objets physiques. Donc la question de pouvoir ou ne pas pouvoir les copier c'est une question sans conséquence dans la vie.
Pour toi, la notion de libre s'applique à des choses immatérielles. Les œuvres de l'esprit.
La question de si quelque chose doit être libre se pose quand quand il est possible d'exercer les quatre libertés pour cette chose. Nous pouvons les exercer, pour exercer.
Oui.
Nous pouvons exercer les libertés.
Oui. Pour les fichiers dans l'ordinateur. Donc, pour les fichiers dans l'ordinateur, la question se pose. Mais pour les objets physiques, nous ne pouvons pas exercer ces libertés. Donc, la question ne se pose pas. Mais il y a des imprimantes 3D.
Oui.
Et les dessins pour les imprimantes 3D posent cette question. Et j'ai adapté ma réponse usuelle, c'est que les objets d'utilisation pratique doivent être, leurs dessins doivent être libres, et pour les objets décoratifs, il suffit que d'autoriser le partage de copies exactes.
Et qu'est-ce que tu penses des gens qui prétendent faire du matériel libre ? Parce qu'il y a des gens qui disent « nous faisons du matériel libre ».
Je crois que il n'y a pas besoin, mais ils peuvent le faire. Je n'ai rien contre, mais il n'est pas nécessaire. Quand nous ayons des copieuses, il sera nécessaire.
D'accord. Quand on pourra cloner des objets physiques, on pourra se poser des questions. C'est ce que voilà. Tu viens de nous dire.
Si déjà nous avons la notice, la documentation, donc à la fois pour fabriquer l'objet et à la fois pour l'utiliser.
Je n'entends pas bien. Je n'entends pas les consonnes que tu dis.
D'accord. Si pour un objet spécifique, nous avons la notice de fabrication.
Qu'est-ce que ça veut dire, notice de fabrication?
Le mode d'emploi. C'est la...
Le mode d'emploi, si. Il faut. Tous les produits doivent être vendus avec le mode d'emploi complet. Et par maintenant, ce n'est pas vrai.
Je me suis trompé sur le... Oui, c'est pas mode d'emploi. C'est un guide qui indique comment doit être construit l'objet.
Ah, ce n'est pas... Il n'y a pas besoin quand nous ne pouvons pas construire ces objets. Ce dont nous avons besoin, c'est le mode d'emploi. Donc, le problème dans l'informatique est la vente de beaucoup de périphériques sans mode d'emploi. Leur mode d'emploi est secret et pour... les utiliser, il faut un programme privateur.
D'accord.
Alors, si on revient un petit peu, ce qui a fait beaucoup parler en ce moment, c'est la mouvance hacker. Donc, je crois que tu t'en revendiques, Richard.
Ah oui, je m'appelle hacker, qui veut dire que j'ai l'habitude de pratiquer l'intelligence de l'esprit ludique. Et j'éprouve un plaisir à voir que les autres le fassent. Donc, c'est ça être hacker. Il ne s'agit pas de rompre la sécurité informatique. C'est un des champs dans lequel il est possible d'utiliser l'intelligence dans un esprit ludique. Mais moi, je ne le fais pas. Quand je fais des hacks, ils n'ont normalement rien à voir avec la sécurité.
Alors, un des domaines où des hackers se sont illustrés récemment, c'est Wikileaks. Je crois que tout le monde en a entendu parler ici. Est-ce que tu penses, toi, déjà, que c'est une bonne initiative?
Bien sûr, mais je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'être hacker. Peut-être un peu, mais c'est un aspect secondaire, peut-être. C'est de la politique, et c'est de la politique très, très bonne et très importante. Donc, je défends Wikileaks.
Je pense que tu as aussi une question sur... Tim, tu as une question sur... est-ce qu'on peut utiliser tous les moyens avec une distribution GNU Linux pour la question sur Canonical?
Ah oui. On a appris récemment que Canonical, donc...
Je n'entends pas bien.
La société Canonical qui s'occupe de produire Ubuntu essaie par beaucoup de moyens de gagner de l'argent, notamment en percevant une partie des ventes de musique sur le logiciel Banshee. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mode?
Je ne connais pas les détails de ce qu'il fait dans ce programme.
D'accord.
Mais en principe, je ne m'oppose pas à la vente copie de la musique.
D'accord. Et entre autres, Canonical
Mais
utilise.
est-ce que le logiciel pour le client est libre?
Oui, pour.
En ce cas, peut-être c'est bon.
D'accord, mais d'un autre côté, pour leur service en ligne Ubuntu One, donc c'est des données en ligne, ils utilisent des logiciels privateurs pour leur serveur.
Oh, c'est dommage pour eux,
Voilà.
mais s'ils ne proposent pas l'utilisation d'un programme privateur à l'utilisateur, donc nous n'avons pas besoin d'y faire attention. Mais quand tu dis que c'est un programme privateur, pourquoi est-ce que tu le dis? Est-ce que tu sais quel programme il utilise? Donc tu ne sais pas si c'est privateur, je suppose. Peut-être c'est un programme privé. Un programme privé peut être libre.
D'accord.
Si l'utilisateur possède les quatre libertés, ce programme est libre. Et cet utilisateur a le droit de distribuer des copies exactes ou modifiées, mais s'il ne veut pas, il n'est pas obligé de le faire.
Je
Donc,
vois.
ce programme peut-être n'est pas privateur.
D'accord.
Alors, je sais qu'Aurore aussi avait des questions sur justement comment gagner les relations entre le monde du logiciel libre et les entreprises.
Oui, est-ce que c'est pas dangereux parfois pour les entreprises? Enfin, est-ce que pour des raisons financières, le logiciel libre s'associe à des entreprises qui n'ont pas la même valeur, ça vous pose problème?
Parfois, mais ce n'est pas un problème. Pas forcément, pas toujours. Oui, il y a un risque. Et le risque se voit dans l'achat de Sun par Oracle. Parce que Sun subventionnait beaucoup de projets de logiciels libres et avait écrit des programmes libres dont Sun possédait le droit d'auteur. Maintenant, c'est Oracle qui est plutôt ennemi du logiciel libre, qui possède le droit d'auteur sur ses programmes et dans plusieurs cas voudrait plutôt détruire l'utilisation de ses programmes tant qu'il peut, tant qu'il puisse. Je ne sais pas lequel est correct.
Tant qu'ils peuvent.
Tant qu'ils peuvent.
Tant qu'ils le peuvent, oui.
De toute manière, voici un risque. Mais c'est le danger est plus grand parce que Sun avait utilisé des licences inusuelles et incommodes, bien que libres, et nous voulions pouvoir convaincre Sun à changer les licences. Et avec Sun, nous avions la possibilité de le convaincre, mais avec Oracle, aucune possibilité. Oracle ne veut pas nous aider.
Donc je suppose du coup que tu vois d'un très bon œil le
Je
fork reste.
n'entends pas.
Excuse-moi. Je suppose donc que tu vois d'un très bon œil le fork récent de LibreOffice.
Oui, bien sûr, parce que OpenOffice avait un problème. Et nous avions commencé l'effort pour corriger ce problème. C'est que dans la liste des extensions, il y a des programmes privateurs. Et les développeurs de LibreOffice ont repris notre projet de développer une autre liste d'extensions sans les programmes privateurs. Et comme ça, ce problème sera corrigé.
Moi, j'aimerais un peu parler de téléphonie. Est-ce que vous êtes au courant de la récente alliance entre Nokia et Microsoft?
Oui, c'est détestable.
Voilà, donc pensez-vous que Migo peut encore sauver le monde de l'informatique mobile?
Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit?
Est-ce le logiciel Migo,
Oui.
est-ce que vous pensez qu'il peut encore sauver le monde de
Je n'ai
l'informatique?
jamais dit que ce système pouvait sauver le monde. Prière de ne pas imposer des jugements exagéré des autres. Je n'ai jamais dit que Migos pouvait le faire parce que Migos n'est pas complètement libre.
Pour vous, ce n'est pas une distribution GNU/Linux ?
Oui, peut-être, mais pas totalement libre.
D'accord.
Et une distribution avec des morceaux privateurs ne peut pas être recommandée. Donc, Migos avait la possibilité d'être un pas en avant et a toujours cette possibilité. Mais comme il est conçu maintenant, ne peut pas sauver le monde. Il serait toujours un problème. Peut-être moins de problèmes, mais toujours un problème. Mais Android est beaucoup moins de problèmes. Le code source d'Android est libre. Le problème, c'est que Android a besoin d'autres programmes privateurs. Et maintenant, quelques-uns ont arrivé à pouvoir utiliser un téléphone avec une version complètement libre d'Android, qui s'appelle Replicant. Mais seulement le téléphone HTC Dream, qui ne se produit plus. Donc, c'est un peu de progrès.
Mais pourtant, Android ne travaille pas du tout avec la communauté par rapport à Migos.
Ça m'est égal, c'est secondaire. Comment quelqu'un travaille est une question moins importante que le résultat. Si le résultat est libre ou pas, c'est la question importante.
Donc une société qui développe un logiciel libre dans son coin sans aucun appui communautaire.
Ça m'est égal. Le logiciel libre est une lutte pour la liberté des utilisateurs, c'est-à-dire de tout le monde. Et comment un programme soit écrit, c'est un détail technique.
Par exemple, le
ce sont ceux de open source qui ont mis l'emphase sur la question de comment écrire le code pour distraire l'attention de la question de liberté ou pas, qui était notre question. Eux, ils voulaient distraire l'attention pour faire oublier cette question de liberté. Ils ne voulaient pas dire « ce programme n'est pas libre, donc ce n'est pas éthique, il ne doit pas exister ». Ils ne voulaient pas poser une question de éthique ou pas éthique, juste ou pas juste. Donc, ils ont mis l'emphase sur la question de collaboration dans le développement. Mais pour moi, ce n'est qu'un moyen technique. Si c'est commode d'accepter l'aide des autres pour faire du progrès dans le code, faites-le. Mais ce n'est pas ce détail qui rend éthique ou pas éthique un programme. C'est respecter la liberté ou pas.
Mais Android pose un problème. Tout libre qu'il est, la dernière version d'Android, je pense, n'est pas trouvable. Vous ne pouvez pas télécharger l'intégralité du code qui tourne
sur... Je n'entends pas.
Il me semble que vous ne pouvez pas, par exemple, télécharger tout le code source en entier de la dernière version d'Android, par exemple.
Qu'est-ce que c'est de la dernière version? La version actuelle?
La 2.3.
Oui. Parce que je ne connais pas les numéros de version d'Android. C'est je ne l'utilise pas. Donc, c'est-à-dire que il y a des...
Il est libre, mais le code source, vous débrouillez pour le trouver vous-même.
C'est... Je n'entends pas.
C'est pas
gênant. Si le code source n'est pas disponible, il n'est pas libre.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que tu dis?
Donc, enfin, c'est toi qui nous dis que le code source de qu'Android est libre.
Que je sache, mais oui. s'ils l'ont changé, c'est dommage. Donc, ils ont mis des programmes privateurs dans Android.
Ce serait plutôt que le code source ne serait pas...
La totalité du code source.
Si vous trouvez le code source, vous pouvez le diffuser. C'est juste qu'il est apparemment difficile à trouver.
Donc il est difficile à trouver,
oui.
Ou il n'est pas disponible?
Il est difficile à trouver.
Mais quelqu'un l'a trouvé?
Alors pour la dernière version, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était non.
Ah donc peut-être ça veut dire que des portions ne sont pas libres.
Donc on fera une petite...
Ce sera un changement important que je voudrais savoir.
D'ici la diffusion de l'émission, on cherchera nous-mêmes et on répondra à la question après l'interview ou dans l'émission suivante.
Parce que Google fait parfois des mauvaises choses. Par exemple, Google a récemment lancé un projet, le projet d'art de Google. Et pour utiliser ce service, il faut le faire avec le logiciel privateur. Impossible avec un système complètement libre.
Je voudrais une réponse que tu nous avais faite tout à l'heure sur le matériel libre. Que pour qu'un contenu puisse être défini comme libre, on doit pouvoir lui appliquer les quatre libertés.
Un contenu, c'est quoi?
Un contenu, enfin, on va dire une œuvre, si tu préfères.
Oui.
Est-ce que ces quatre libertés peuvent s'appliquer à un morceau de musique?
Bien sûr. Un morceau de musique peut être libre ou pas. Mon opinion n'est pas que la musique doit être libre. Il suffit pour moi que la musique soit partageable.
C'est-à-dire pouvoir être vendu librement, même...
Non, partageable notamment. Veut dire que chacun a le droit de partager des copies, c'est-à-dire diffuser de manière non commerciale des copies exactes.
Et par exemple, est-ce qu'une œuvre qui se trouve sous licence Creative Commons, attribution... partage sous les mêmes termes et une clause de non-commercialité, la clause NC, pour toi, est-ce que c'est un morceau de musique libre?
Oui, aussi, toutes les licences de Creative Commons sont des licences partageables.
Donc pour toi, ça, c'est une musique qui est sous n'importe quelle licence Creative Commons est libre?
Non, je ne dis pas que c'est libre, je dis que c'est partageable.
Partageable, d'accord.
Libre veut dire avec les quatre libertés. Et seulement deux des licences de Creative Commons sont libres.
C'est la Creative Commons by...
Attribution et attribution share alike.
Donc, d'accord. Donc, un morceau qui est sous licence Creative Commons, share alike, attribution et non commercial n'est pas libre.
N'est pas libre, mais est partageable.
Mais partageable. Donc, pour toi, c'est déjà un moindre mal qu'un morceau soit partageable.
Ça suffit.
Ça suffit, d'accord.
Je crois que les œuvres pour l'utilisation pratique, pour faire des travaux, doivent être libres. Mais les autres œuvres doivent être partageables.
D'accord. C'est le point de vue de Richard Stallman. Vous voulez vous prévaloir du point de vue de quelqu'un? N'en profitez pas pour employer des arguments d'autorité tout de même. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais oubliées et que Aurore ou Tim souhaiteraient poser?
Moi, je voudrais bien, c'est une question un peu générale, mais qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir du libre et les principales contraintes ou les difficultés qui pourraient arriver?
Je n'ai pas entendu tout ça.
Je voulais savoir les difficultés qui pourraient arriver pour le logiciel libre dans les 10 prochaines années. Quelles sont les principales tendances et les principales contraintes que vous identifiez?
Je ne comprends pas bien.
Parle peut-être moins, plus lentement, Aurore.
Je disais, dans les années qui arrivent, dans les 10 prochaines années, il va certainement y avoir des évolutions.
Je ne vois pas l'avenir.
D'accord. Et comme vous avez d'expérience, vous me disiez que vous pourriez...
Je vois des dangers actuels.
Alors, parlez-nous de ces dangers dans ce cas-là.
Il y a l'inertie sociale, la tendance à continuer dans le même chemin qui est le chemin de logiciels privateurs de toujours plus de dépendance. Et il y a la guerre contre partager. Avec, par exemple, la loi Adopi et la loi injuste d'ADFSI et beaucoup de lois injustes que Sarkom a imposé à la France, et donc il faut éliminer ces lois, il faut légaliser le partage. Mais aussi, il y a la tendance de construire des produits physiques avec du logiciel dedans et le faire de manière qu'il soit impossible d'installer une version modifiée. Et ce doit être illégal.
C'est plus des problèmes législatifs, alors.
Souvent, mais pas toujours. Par exemple, l'inertie sociale n'est pas complètement une question législative, parce que pas toute l'inertie ne vient de l'État.
Pour toi, est-ce qu'une loi peut imposer dans certains usages l'utilisation de logiciels libres ?
Oui, parfois, mais il faut le faire avec soin. Parce que je ne propose pas d'interdire le logiciel privateur complètement, parce que c'est trop radical. Les citoyens ne sont pas prêts à accepter une telle loi et interdire une pratique que beaucoup de monde veut faire produit des conflits. C'est comme l'interdiction du marijuana. Il ne faut pas. Et aux États-Unis, il y a pour plusieurs années l'interdiction de l'alcool. C'était horrible. Donc, bien que je pense que le logiciel privateur est un mal et ne doit pas exister, je ne propose pas de l'interdire simplement. Mais les agences publiques doivent rejeter le logiciel privateur.
Donc, toutes les administrations devraient utiliser, c'est ce qu'on avait dit souvent à Chinook, c'est que l'argent public, l'argent de la collectivité, doit être utilisé à fabriquer des logiciels
bien
partageables
sûr, aussi,
avec l'ensemble
mais aussi,
de la collectivité. Mais
même quand il ne s'agit pas de dépenser de l'argent public parce qu'il s'agit de logiciels déjà acquis ou disponibles gratuitement, les agences publiques doivent maintenir toujours la souveraineté de leur informatique. Et ça se fait uniquement par le logiciel libre. L'utilisation d'un programme privateur dans une agence publique et accepter le pouvoir d'une entreprise privée ou d'un individu privé sur l'État.
C'est un point de vue qu'on retrouve beaucoup, notamment quand la gendarmerie est passée à Project, est en train de migrer à GNU Linux la plupart de ses ordinateurs. C'est un des arguments principaux. Étant donné, la gendarmerie, c'est quand même des militaires. Plus maintenant, mais c'était quand même des militaires. Donc c'était quand même un des arguments principaux de la migration.
Oui, bien sûr. Pour les agences relationnées avec la sécurité, il faut ne pas tolérer un programme privateur dans leurs ordinateurs. C'est comme un virus. C'est un virus potentiel, c'est-à-dire. Je ne dis pas que tous les programmes privateurs font des mauvaises choses, mais beaucoup les font. Et chacun pourrait le faire, et il est impossible de le vérifier.
Est-ce que vous avez d'autres questions, Tim ?
Une question très actuelle. Avez-vous entendu parler de la Freedom Box ?
Oui. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne chose.
Alors, pour rappeler, donc, c'est en fait un serveur basé sur Debian qui permet de garder en local vos données personnelles.
Est-ce que ça doit être Debian ? Je crois que ce serait un problème. Je devrais le lui dire parce qu'il faut promouvoir une distribution complètement libre.
Voilà, parce que ce
que Debian n'est pas.
Est-ce que Debian a enlevé les firmwares propriétaires, notamment ?
Ah, c'est bon, privateur, mais bon. Oui, c'est un changement, mais ça corrige un des problèmes de Debian. Mais Debian aussi promeut des programmes privateurs avec les sections pas libres et contrib.
On n'est pas obligé de les installer pour...
C'est une autre question.
C'est-à-dire que moi, j'ai installé récemment une Debian.
C'est une autre question.
Ils ne sont pas activés par défaut dans les dépôts de Debian.
Oui, mais ils sont dans les serveurs.
Oui.
Donc, je ne dirigerai personne vers les serveurs de Debian. Donc, je devrais lui écrire à M. Moglen pour remplacer cette distribution. Si lui, il a dit Debian. Est-ce qu'il a dit Debian ?
Je pense que le projet est basé sur Debian, vu que c'est un logiciel à la base.
Ah, pas besoin. Il pourrait utiliser GnuSense en lieu de Debian.
vous rappeler, donc le développeur de ce projet est Monsieur Eben Mogley, qui est avocat.
Oui, oui, je le connais.
Je rappelle pour nos auditeurs, qui est avocat de la Free Software Foundation, et donc qui a rédigé avec Richard Stallman la licence.
Non, non, non. Je suis l'auteur de la GPL. Mais il m'a conseillé quand j'ai écrit la version 3.
D'accord.
Donc il a participé beaucoup, mais j'ai pris les décisions, enfin.
Oui. D'accord. C'est pour, plutôt pour la partie juridique alors, qu'il était là.
Oui, bien sûr, parce que j'avais besoin de travailler avec un avocat.
Alors, puisqu'on est sur la question juridique, tu as entendu parler de la loi LOPSI, Richard ? La loi LOPSI qui, notamment, qui a été adoptée récemment, hélas, et qui prévoit notamment un filtrage du net, notamment, pour lutter contre certains...
Oui, c'est la tyrannie. La censure et la tyrannie. Il n'y a... Hors de la guerre, il n'y a pas de justification possible pour la censure.
D'accord. Oui, enfin ça c'est-à-dire là-dessus on est d'accord, mais après il y a les arguments que certains sites. Alors après c'est un débat. Je sais que toi tu as une conception.
Je n'entends pas les mots que tu dis.
C'est vrai qu'il y a un débat sur les conceptions de la liberté d'expression. Toi tu as une conception très ce qu'on appelle ici anglo-saxonne, c'est que tu considères que tout doit pouvoir être dit.
Je n'entends pas.
Ah, tu ne comprends pas.
Je n'entends pas les consonnes. Que tu dis.
Alors, toi, tu as une conception, ce qu'on appelle en France très anglo-saxonne, de la liberté d'expression.
Peut-être.
C'est-à-dire que pour toi, tout doit être dit. Tout doit pouvoir s'exprimer.
Bien sûr. La censure est dangereuse.
Si je veux résumer, les nazis ont droit à la parole.
Bien sûr.
Alors c'est vrai qu'en France c'est ce genre de c'est, ça fait débat en France.
Je n'entends pas les mots que tu dis, tu parles trop vite pour moi.
En France c'est quand même une question qui fait énormément débat. Non, bon c'est en France
si
c'est plutôt.
S'ils imposent la censure aux nazis, bientôt ils le feront à nous aussi.
Parce que donc, la loi LOPSI, là, prévoit une censure principalement pour les sites pédopornographiques.
Cette censure est aussi injuste. Il y a des choses complètement dégueulasses dans les œuvres. Par exemple, la violence. J'ai vu une fois un film si violent que je ne veux jamais voir telle chose. Il s'appelait Pulp Fiction. Je le déteste. Mais je ne propose pas la censure de ces films. J'essaie de ne pas les voir.
D'accord.
Alors pour ce qui est des contenus pédopornographiques, je voudrais quand même signaler qu'une association de référence sur la lutte contre la pédophilie s'est prononcée contre le filtrage du net. Même eux se sont rendus compte et ils sont d'accord avec les arguments, notamment de la quadrature du net, comme quoi, en fait, filtrer net n'était pas une réponse et qu'il fallait plutôt augmenter les effectifs de la gendarmerie affectée à la lutte contre la pédophilie pour y lutter contre. Et que non seulement ils se rangent aux arguments de la quadrature net et de FDN, French Data Network, selon lequel, en fait, c'est même contre-productif parce que ça permet aux gens qui vont voir ce genre de site de se cacher encore mieux.
De toute manière... cet argument ne peut pas justifier la censure des œuvres qui présentent des faux enfants faisant du faux sexe.
Oui, c'est-à-dire, oui, voilà, tu parles d'œuvres. Voilà.
Ils essaient toujours de confondre les deux questions. Ils présentent des arguments contre la production de pornographie avec des vrais enfants et puis ils essayent de substituer autre but qui n'a rien à voir avec ça.
Voilà, parce que là, la grosse polémique aussi, c'est que la liste des sites bloqués est cachée. Elle est connue uniquement du gouvernement. Donc à partir de là, les dérives...
Bien sûr, et un représentant de l'organisation des entreprises de disques a déjà dit dans une conférence qu'il aime bien la pornographie infantile, que c'est une excuse pour le filtrage du net, et une fois
que ce soit... Il aime bien la pornographie infantile, c'est-à-dire qu'il trouve que l'argument est assez...
Oui, il aime...
Attention, au sens des mots en français, Richard.
Quoi?
Tu as dit qu'il aimait bien la pornographie enfantine,
c'est oui, pas, c'est pas ce que tu voulais penser. Oui, comme excuse pour le filtrage.
Aurore, tu as quelque chose à ajouter?
Bah, sur la même idée, est-ce que c'est vraiment n'importe quelle utilisation du libre vous paraît normal si par exemple il y aurait des terroristes qui utiliseraient des logiciels libres pour...
Ils peuvent utiliser aussi le papier. Ils peuvent utiliser aussi le papier.
D'accord.
Est-ce que donc chaque magasin doit mettre une licence sur le papier? Ce papier ne peut pas être utilisé pour la planification des attentats terroristes, ni par l'État pour faire des guerres injustes. Ni pour ça et ça et ça, c'est absurde. Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas interdire toutes les mauvaises choses possibles dans la vie avec des conditions de licence de logiciel. Il y en a qui utilisent le système GNU et Linux pour faire des mauvaises choses. Je crois que Facebook utilise le système GNU et Linux. Et ce que Facebook fait est très mauvais parce qu'il ne respecte pas les droits de ses utilisateurs. Mais je ne peux pas l'interdire à travers des logiciels très généraux que Facebook utilise. On peut l'utiliser pour faire n'importe quoi. Il doit être comme ça.
C'est comme un peu comme Internet. Ça peut être utilisé pour n'importe quel. Pour le meilleur et pour le pire, hélas.
Le métro aussi. On peut voyager dans le métro pour faire n'importe quoi.
Richard est venu par
métro. Y compris des mauvaises choses.
Est-ce que vous connaissez l'économie sociale et solidaire ou pas du tout?
Non.
C'est un peu comme le third sector, le troisième secteur en Angleterre, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ou pas plus.
Je ne connais pas cette expression.
D'accord. C'est en fait un regroupement d'entreprises et d'associations qui, quand ils mettent des projets, font attention et au côté économique, et au côté social, et au côté coopératif.
C'est très général. Est-ce que tu peux le dire de manière plus concrète?
C'est des associations, des coopératives.
Donc n'importe quelle...
Utilité publique, en fait, au lien social, par exemple.
Ce sont des entreprises qui ont d'autres buts que de gagner de l'argent.
Voilà, qui n'ont pas uniquement des contraintes économiques.
Ah, donc je suppose que l'FSF est un exemplaire.
Non, c'est une entreprise, c'est quand même, ça emploie des gens. C'est pas forcément, oui et non. Mais il y a quand même le but d'avoir une activité économique.
C'est-à-dire d'avoir quoi?
Une activité économique, c'est-à-dire de vendre des biens ou des services.
L'FSF le fait aussi.
C'est vrai, mais ce n'est pas votre but. Le but de la FSF, c'est protéger le logiciel libre.
Oui, et nous vendons des choses pour pouvoir faire...
Mais c'est annexe, c'est-à-dire tu fais ça pour
c'est
financer.
Secondaire.
C'est pas, voilà.
Donc,
mais là, on parle d'entreprises qui sont des commerces.
C'est le but.
Mais des commerces, mais qui n'ont des commerces, des gens qui vendent des biens ou des services, mais dont le but premier n'est pas forcément de faire de l'argent.
Voilà, c'est des coopératives.
Je suis d'accord, il me paraît bien. Donc, mais c'est quoi la question?
Est-ce que le rapprochement avec le logiciel libre vous paraît très normal, mais après, ils considèrent qu'ils ont des valeurs communes avec le logiciel libre, parce que justement, il y a une notion de fraternité, il y a une notion d'égalité entre les personnes, de respect des individus, de droit à la parole.
Je dirais que pour les entreprises sociales, Si quelqu'un veut faire le développement de logiciels et il veut le faire de manière éthique, il doit le faire comme du logiciel libre. Mais ce que je dis est plus fort que ça. Je dis que personne ne doit développer un programme privateur. C'est injuste. C'est une attaque à la société. Je ne propose pas de l'interdire, pas aujourd'hui. Peut-être un jour, si les citoyens sont prêts à le faire, je ne serai pas contre, mais peut-être un jour. Mais aujourd'hui, je ne propose pas d'interdire le développement de logiciels privateurs ni sa distribution, mais c'est injuste. Donc c'est plus fort encore.
Est-ce que c'est presque un mouvement social au final?
Bien sûr. Le logiciel libre est un mouvement social. Je l'ai lancé comme mouvement social.
Très bien. Moi, j'avais une dernière question personnelle. Quel logiciel et quel matériel utilisez-vous tous les jours?
Vous?
Tu? Excuse-moi.
Vous tous?
Toi.
J'utilise plutôt Emacs.
Oui.
Parce que ce que je fais pour la plupart est de répondre aux courriers. Et je le fais dans Emacs.
D'accord. Et au niveau matériel?
Ça veut dire quelle marque d'ordinateur est-ce que j'utilise?
Est-ce que c'est peu importe?
Oui, c'est un ordinateur Lemote que j'ai choisi parce que même le BIOS est libre.
D'accord.
Parce que ce n'est pas une PC. Ce n'est pas un processeur de type Intel.
Et aujourd'hui, sur quel projet vous travaillez encore?
Vous, faites encore vous un... c'est qui?
Sur quel projet tu travailles encore? Tu
développes un... Je n'ai pas vraiment de projet actuellement.
Emacs un peu?
Non, je ne programme plus, je n'ai plus de temps. Et mon travail n'a pas la forme de projet. Des fois, j'ai un projet, mais... Ce n'est pas de temps en temps, mais la plupart de mon travail est de répondre aux courriers sur des décisions de comment faire ça ou ça dans le mouvement, ou faire des interviews, ou faire des. Ou proposer des choses, essayer de convaincre quelqu'un.
D'accord, la communication.
Oui.
Une dernière question avant de terminer cette interview. On remarque que tu parles quand même bien français. Où as-tu appris à parler français?
J'ai remarqué beaucoup d'erreurs dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Beaucoup plus d'erreurs que normal pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être je suis fatigué, peut-être je suis vieux. L'un ou l'autre, ou peut-être, et aussi parce qu'il fait longtemps que je n'ai pas parlé français, plusieurs mois. Donc, mais j'ai commencé à l'école quand j'étais jeune, mais j'ai appris à vraiment parler français quand je suis allé à Paris pour 6 semaines pour travailler au Centre mondial d'informatique à l'année 85.
Je ne connais pas le Centre mondial d'informatique. Je ne connais pas. On s'enseignera dessus.
C'était un projet de l'État qui avait le but de développer de l'informatique pour aider les pays pauvres, mais n'a pas réussi à faire beaucoup.
C'est dommage, ça semblait être une bonne initiative. Plus de questions? Bien, Richard, merci d'avoir répondu à notre question.
Merci beaucoup.
Tu as été très patient, tu nous as...
Je peux dormir maintenant?
Tu peux dormir avant.
Merci, Richard, merci.